voix nue. Cette semaine, Pierre Chassagneux rencontre Enki Bilal. Ce soir, les années pilotes.
Bonsoir Enki Bilal.
Bonsoir.
Hier, vous nous avez raconté votre jeunesse, votre enfance familiale, passée entre deux villes, Belgrade et Paris, deux villes, deux sociétés, deux univers très différents, qui seront plus tard parmi des sources importantes de votre imaginaire, lui-même nourrissant votre création. Aujourd'hui, on est en 1966, vous avez 15 ans, et vous avez rendez-vous avec Jean-Michel Charlier et René Goscinny, deux artistes parmi les illustres fondateurs et dirigeants du journal Pilote. Qu'est-ce que ça représente, Pilote, pour vous, à l'époque ?
Alors, Pilote, je le perçois, je le vis à plusieurs niveaux. Premier niveau, c'est la jonction assez miraculeuse pour moi d'une passion qui est le dessin, donc qui me vient de mon enfance belgradoise. Hein. C'est quelque chose que j'ai transporté avec moi de Belgrade jusqu'à Paris. Cette passion du dessin, tout d'un coup, trouve dans la langue française un allié incroyable où, bah, finalement, l'aspect bâtard de la bande dessinée propose comme ça cette alliance assez hybride en soi. L'écrit et le dessin. Et je me dis, je suis tombé au bon endroit. C'est quand même extraordinaire d'arriver dans un pays où cette capacité à raconter par les mots que moi je venais de maîtriser, commencer à bien maîtriser, que j'appréciais réellement dans la langue française et le dessin. Je me dis, voilà, je suis tombé vraiment parfaitement au bon endroit. Et Pilote, c'était l'aspect peut-être le plus évolué, le plus adulte, quelque part, de la bande dessinée francophone à ce moment-là. En tout cas, davantage que Tintin et évidemment beaucoup plus que Spirou. Je parle pas de Tintin, le personnage et la série, je parle vraiment du magazine. Et donc ça, alors c'était mon réflexe du mardi matin ou mercredi, je sais plus quand ça sortait. Mais en tout cas, c'était vraiment un moment important dans la semaine. Et puis c'était aussi un moyen de m'isoler, vraiment, de me préserver, parce que la situation n'était pas forcément confortable, sur le plan économique, c'était délicat, difficile pour toute la famille. Et donc moi, j'avais cette chance de trouver dans le dessin et grâce à Pilote, c'est une espèce de bulle dans laquelle je pouvais m'enfermer. Et je dessinais énormément chez moi, dans un coin, sur des genoux, comme ça. J'avais mon carnet, mes morceaux de papier, mes bouts de papier. Et puis je dessinais, je baignais dans cet univers. Donc Pilote, c'était un peu le pourvoyeur de tout ça, de ces fantasmes. C'était un moyen de me préserver aussi. J'ai compris ça, évidemment, plus tard. Et puis voilà, donc c'était aussi un apprentissage assez exceptionnel, puisque une grande variété de dessins, de styles, de genres. Hein. Et évidemment, tout naturellement, je vais vers le genre réaliste, je vais vers les séries, que ce soit Tanguy la Verdure, que ce soit Blueberry, évidemment, je découvre Blueberry à ce moment-là. Et puis Valérian, je vais découvrir Valérian ensuite, de Christin Mézières, etc. Bon, toute cette grande et belle époque de la bande dessinée francophone. Hein.
Et donc du coup, vous avez rendez-vous avec eux, et qu'est-ce qui se passe lors de ce rendez-vous ?
Alors j'ai rendez-vous avec eux, alors mon père, lui, il avait son atelier de tailleur, tout parce qu'il est à 200 mètres des bureaux d'un Pilote, enfin c'est le hasard qui fait ça, cette proximité géographique, et je vais d'abord chez mon père, et je sais que je suis tout à fait tétanisé à l'idée de rencontrer ces deux personnage que je ne connaissais. Alors c'est assez marrant, ça, je les connaissais, j'avais jamais vu des photos d'eux, mais je les connaissais par la représentation caricaturale qu'on avait fait dans Pilote, et c'était souvent d'ailleurs, c'était Alexis qui avait dessiné, mais sinon on retrouvait Goscinny dans Achille Talon, on retrouvait Charlier dans Achille Talon, etc. Donc je vais voir en fin de compte des personnages que je connais par le dessin qu'en font les autres membres de Pilote, de l'équipe Pilote, et donc je les reconnais immédiatement, mais sauf qu'ils sont en chair et en os. Ce qui me frappe d'emblée, c'est que j'avais l'impression que Goscinny était plus timide que moi, qu'il avait plus le trac que moi. J'exagère, mais c'est quelqu'un de réellement très très en retrait, mais qui a en même temps, dès qu'une dès qu'un espace est laissé, ou quand il veut le prendre, cet espace, c'est des traits à la fois d'humour, d'esprit extrêmement acérés, et c'est assez impressionnant. Et donc, je suis accueilli par ces deux personnages, physiquement très impressionnants, Jean-Michel Charlier, et Goscinny, tout l'inverse, plus petit. C'était un peu le relais hardi, quelque part. Et un accueil vraiment très, très, très chaleureux, très, parce qu'il sentait que j'étais à la fois tétanisé, et en même temps, il voyait que j'étais passionné. Je pense que ce que je leur montrais les a assez touchés.
Oui, vous aviez amené des travaux.
Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, c'était des bouts d'histoire commencés, parce que c'est ce que je faisais toutes les semaines, je recommençais une nouvelle histoire. Et ça, c'était, alors, je le dis parce que c'est assez marrant, c'est lié au cinéma aussi. Cette habitude banlieusarde, de banlieue de la Garenne-Colombes, la banlieue ouest de Paris, où tous les dimanches après-midi, ma mère, ma sœur et moi, mon père allait plutôt aux courses, jouer aux courses. On allait au cinéma, donc le cinéma de l'après-midi, du dimanche après-midi, donc avec des séances du cinéma évidemment pour les enfants et pour tout le monde. Alors selon le film que je voyais le dimanche précédent, dans la semaine qui suivait, eh bien je commençais une histoire. Alors ça pouvait être un péplum, ensuite c'était un western, ensuite c'était un film d'espionnage, donc je commençais des histoires que je ne finissais pas, mais en tout cas j'étais à chaque fois motivé et surmotivé par ce que j'avais vu au cinéma. Et alors donc c'est des choses comme ça que j'ai dû montrer à Charlie et Goscinny, donc des bouts d'histoire ou des dessins simplement. Je me souviens pas, en fait, j'ai pas gardé tout ça, ça s'est perdu dans des déménagements. Et mais en tout cas, voilà, ils m'ont conseillé. Alors, j'étais un peu frustré, déçu, parce que évidemment, je rêvais qu'ils me disent, mais on va t'engager tout de suite. Non, c'est pas comme ça que ça marche. J'avais 15 ans et il fallait effectivement d'abord passer ces examens et le bac. Mais en tout cas, je me disais, voilà, c'est un premier contact. Un jour, quand je serai mûr, j'irai les voir pour leur reproposer. Et c'est un concours qui s'est présenté à ma place. Enfin, j'ai pas eu à faire le geste de prendre le téléphone pour les appeler. J'ai fait un concours. J'avais l'âge limite, j'avais 20 ans. Donc, un pilote qui organise un concours pour le dessin, pour des jeunes dessinateurs qui ont envie de faire de la bande dessinée. Alors, là aussi, c'est carte blanche, ça peut être de l'humour, ça peut être du réalisme, etc. Donc, moi, j'envoie deux planches réalistes. Voilà, et je remporte le premier prix et ça, c'est parti, ça part comme ça, en fait.
Donc, on est en 1971, ce sont vos premiers pas professionnels, cette fois-ci chez Pilote. Est-ce que vous pensez qu'ils se souvenaient de vous? Du jeune Enki Bilal ou pas?
Je ne pense pas. Je ne sais pas si je n'ai pas posé la question à l'un des deux. Je me souviens plus. Mais j'étais tellement content et sur. Enfin bon, c'était tellement sidérant cette histoire de d'être comme ça. J'avais complètement oublié d'ailleurs ce concours parce que c'est on envoie des choses comme ça. C'est comme une bouteille à la mer, ça part et puis bon, on pense plus du tout à ça. Et surtout qu'il s'est passé au moins 5 mois avant que le retour ne revienne. Et puis voilà, c'est. Alors après, c'était les portes de Pilote m'étaient ouvertes d'une certaine façon, mais c'était à moi quand même de faire de venir proposer. Et c'est ce que j'ai fait. Alors, avec une première histoire qui s'appelait Fin, F-I-N. Ah, c'est un truc assez métaphysique. Et je présente ça à René Goscinny. Charlie n'était pas là, c'est René Goscinny qui me reçoit. Puis il me dit, Fin, il dit, ça commence mal. Une histoire qui s'appelle Fin. Et il m'a dit, non, faut pas te perdre dans, là, c'est trop, raconte une histoire, essaie de raconter vraiment une histoire. Et donc, c'était un refus, un vrai refus. Mais, avec cette bienveillance, parce qu'il m'a pas découragé, en fait. Il a réussi à me donner le sentiment, ce qui était vrai, il le pensait que j'avais le potentiel et que j'étais le bienvenu de toute façon, que je faisais partie, quelque part, de cette aventure de pilote par ce concours. Mais il m'a dit, voilà, raconte une histoire avec un début et une fin, c'est ce que j'ai fait. Le bol maudit, c'est ma première histoire et ça a été publié.
Alors justement, le bol maudit, vous le publiez en 1972. L'histoire se situe à Paris, en l'an 2000, après une inexplicable catastrophe. Et est-ce que l'on peut dire que votre patte, vos imaginaires sont déjà en germe sur ces 7 premières pages publiées ?
Je pense que oui, forcément, ne serait-ce que culturellement, je pense que y a le fait de choisir Paris quand même, c'est déjà c'est pas anodin. Il y a une petite participation de Goscinny, je le dis, à cette histoire, parce que l'histoire, il n'a pas du tout changé l'histoire, mais une des premières cases, il y a une rue, il y a un café, hein, c'est ça, et puis il y a marqué rue Noire, c'est le nom de la rue. Bon, et à la fin, quand il a lu le truc, il me dit mais il faut remettre rue Noire là, l'espèce de boucle temporelle, machin, terrain. Je dis, professionnel, le talent de Goscinny était là. Donc voilà, c'était sa petite touche. Moi, j'ai rajouté rue Noire. Donc alors, il y avait cette présence de Paris, il y avait ce refus déjà du réalisme, même si je représente quand même un Paris, mais de manière libre. D'une certaine façon, c'est si je choisis toujours, au début en tout cas, si je choisis les décalages temporel, c'est pour ne pas avoir à copier la réalité. Me débarrasser de cette obsession, enfin, moi, ça, c'est quelque chose qui me ligotait littéralement les mains, qui me bloquait de devoir copier, par exemple, la rue dessinée Saint-Eustache, là, qui est à côté. Ça me bloque. Alors, si on me dit, vous dessinez une église qui s'appelle Saint-Eustache, ouais, je peux la faire sans aucun problème. Alors, ça va pas être tout à fait Saint-Eustache, mais ça sera quelque chose qui y ressemblera. Et donc, il y avait ça aussi, c'est déjà dans les germes de cette première histoire, c'est que on sait pas trop où on est. Voilà. Et puis il y a le alors dans la foulée de cette idée de représentation, il y a aussi l'époque. Donc on est forcément dans un futur proche. Je suis pas obsédé par les longues distances temporelles, mais le futur proche m'intéresse aussi parce qu'on est dans le domaine du fantastique, de la science-fiction, qui sont quand même des éléments qui vont surgir très vite dans mon rapport à la langue française, d'ailleurs, puisque c'est vers ça que je vais aller assez rapidement. En besoin de lecture, je pense que c'est, à part les programmes au lycée où je lisais les grands classiques français, qui me plaisaient, hein, mais je vais quand même très vite vers Jules Verne, Baudelaire, autre chose. Mais
Baudelaire qu'on va retrouver dans
qui est un peu mon marqueur au fer rouge, c'est mon premier émoi littéraire en fait. Et parce que je comprenais pas tout et que je sentais que c'était sulfureux, mais que ça m'impressionnait et ça me donnait de la chair de poule de le lire. Et donc je vais vers ça et puis. Petit à petit, la littérature classique commence à m'ennuyer un peu, mais je suis toujours un bon élève, et je vais vers la science-fiction anglo-saxonne, etc. C'est des choses que je vais découvrir, et qui sont déjà dans mes gènes culturels, puisque c'est entre 15 et 20 ans, et lorsque je commence à publier, mais tout ça, je l'ai déjà en moi. Toute cette matière, toute cette façon de voir, de se poser la question du monde et des sociétés, c'est un formidable exercice presque de mémoire à l'envers, quoi, de cette projection, ce questionnement qu'on se fait sur nous-mêmes en essayant de projeter dans un futur proche. Et ça, c'est un jeu, c'est de l'ordre du jeu intellectuel, ce qui va compter très très vite dans mon travail, et c'est déjà dans les premières histoires, alors qui sont très influencées, là j'assume parfaitement, par Lovecraft, qui n'est pas un auteur, ce qu'on appelle de science-fiction, c'est un auteur fantastique, extrêmement efficace, c'est d'une grande efficacité, le personnage est odieux, c'est un antisémite, raciste, quelqu'un d'absolument malade, hein, c'est un malade, donc ça ne m'excuserait en rien évidemment, mais en même temps il produit des textes qui m'ont énormément marqué, qui ont même été un peu à l'origine peut-être de mon style graphique. Je suis persuadé que les mots souvent peuvent avoir plus d'impact sur un graphisme que les images elles-mêmes. C'est peut-être que c'est plus puissant La mutation que les mots fabriquent dans un style graphique, et c'est peut-être plus puissant que d'aller dans un musée, y compris le Louvre, voir Delacroix ou le Gréco ou Goya, qui étaient mes peintres favoris et qui sont toujours parmi mes peintres favoris. Et j'avais le sentiment que les mots avaient une capacité de modifier le graphisme, de faire vraiment sortir des choses. Voilà, le rapport à la langue, à l'écriture, c'est un peu éviter d'avoir un exemple graphique, une image. Donc, c'est éviter le réel, d'une certaine manière, et se fabriquer son propre réel. Et ça aussi, ça, quelque part, ça rejoint l'idée de ne pas reproduire.
Les deux années suivantes, vous enchaînez les histoires. Oui. Les plus longues sur 7 ou 8 pages, comme Ophiuchus, les plus courtes sur 2 ou 3 pages, comme Le Mutant ou Big Space Opera, des histoires en noir et blanc ou en couleur, et dont les premières planches sont d'ailleurs signées Enes Bilal.
Oui, c'est vrai. Enes, c'est mon vrai prénom, hein, c'est tout simplement ça. C'est très intéressant, je vais pouvoir régler des comptes avec Wikipédia. Je vais vous raconter une histoire formidable. Enes, c'est mon vrai prénom. Et Enki, c'est un diminutif que me donnent mes parents, comme dans tous les pays de l'Est, on donne très vite un diminutif. Donc Enki, c'est petit Enes, en fait. Ça ne diminue rien, parce qu'il y a toujours 4 lettres. mais en tout cas, c'est chargé d'affection, et c'est vraiment un diminutif affectif. Alors, non, là je fais quand même, c'est quand même assez inquiétant et surprenant. Pendant de longues années, sur Wikipédia, il y avait marqué que mon vrai nom était Enes Bilalovitch. Bilalovitch. Bon. Alors, je sais pas d'où c'est sorti, mais c'est resté longtemps. Alors, j'ai essayé de le faire enlever. Moi, j'ai pas la patience, je sais pas. Donc, il y a des gens qui ont essayé. Ils ont fini par y arriver. On a enlevé Enes Bilalovitch. Alors, je me souviens qu'au cours d'une interview, j'avais dû dire que Bilal, c'était un peu une racine pour des noms propres dans les Balkans et y compris en allant vers l'Empire Ottoman. Tout ça, ça vient de là-bas. Et je disais, mais par exemple, il y a Bilalian, hein, il y avait un journaliste qui s'appelait Daniel Bilalian, il y a Bilalian, il doit y avoir des Bilalovitch, etc. Et c'est en disant ça que je pense que c'est parti Bilalovitch, on s'est dit, il s'est appelé Bilalovitch. Donc, Wikipédia s'est corrigé, Bilalovitch disparaît. Et là, de nouveau, c'est pas Bilalovitch, c'est Bilanovitch. Alors j'aimerais bien que monsieur Wikipédia m'explique comment des gens se permettent de m'inventer des noms, c'est assez sidérant. Mais en tout cas, voilà, c'est alors je signais Enes Bilal, effectivement.
On est au mi-temps des années 70, oui. Et c'est la rencontre artistique avec Pierre Christin, votre aîné de 13 ans. Pierre Christin, c'est entre autres ouvrages le scénariste de Valérian, et avec vous, c'est une dizaine de collaborations. Racontez-moi comment tout a débuté avec lui.
Alors tout a débuté avec lui à une séance de dédicace. Voilà, je m'étais installé, j'étais toujours dans la banlieue parisienne, mais je m'étais un peu rapproché de Paris. Je m'étais à Courbevoie, je crois, et je passe devant une grande librairie dans un centre commercial, et là je vois annoncer une dédicace, séance de dédicace, Valérian, donc les deux auteurs, Pierre Christin et Jean-Claude Mézières viennent dédicacer. Et je suis obligé d'y aller.
C'est pour moi.
C'est pour moi, et aussi parce que Jean-Claude Mézières, je l'avais rencontré à la remise du prix que j'avais remporté à Pilote, et il m'avait même accompagné en voiture dans sa petite Volkswagen, je crois que c'était une petite Volkswagen. Il m'avait accompagné, donc on avait sympathisé. Il était vraiment très, c'est un milieu très 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 ouvert, très sympathique. C'est quand même un monde assez pur d'une certaine façon. Il l'a été longtemps en tout cas. Et donc je me sens obligé à la fois d'aller voir Jean-Claude Mézières. Donc j'admirais évidemment le dessin et Pierre Christin. Donc j'y vais un peu le trac au ventre comme toujours dans ces cas-là. Et donc Jean-Claude me reconnaît, on discute, Pierre m'est présenté, Pierre avait vu mes dessins, j'ai publié mes premières histoires, donc il dit on va se voir après, etc. Donc on prend un café ensemble, on discute, et il me dit voilà, est-ce que j'ai quelque chose peut-être à te proposer, est-ce que ça pourrait t'intéresser? Alors j'étais assez surpris et il me dit c'est une histoire, alors je dis voilà, c'est ce que je devais faire avec Tardy, Jacques Tardy. qui n'était pas la suite, mais un peu dans la foulée de Rumeurs sur le Rouergue, qui était un album qu'ils avaient fait ensemble, qui avait déjà ces gènes, je dirais, de social-politique, vision, la vie française, les sociétés, la politique, enfin bon, côté très christin, il était en train d'introduire ça dans la bande dessinée francophone. Et il me dit, voilà, c'est un jeu tardif, on est très bons amis, mais il a envie de faire des trucs plus perso, etc. Donc il m'envoie le script, alors je le lis, je suis un peu sidéré, je suis un peu déçu, parce qu'il n'y a pas de fantastique vraiment, et puis j'imagine tout ce que je disais tout à l'heure sur mon rapport au dessin, la reproduction de la réalité, etc. Je me dis, bah, ça se passe dans les Landes. Alors, les Landes, je connaissais pas, mais je vois un peu des photos des Landes, c'est des pins.
C'est monotone.
C'est monotone, c'est des routes droites, alors il y a des belles plages. Mais en même temps, je me dis, je ne peux pas dire non à Pierre Christin, je ne peux pas dire non à une histoire comme ça qui me... Donc je dis oui, mais je dis, est-ce qu'on peut discuter? Donc on discute et je demande à Pierre d'introduire un peu de fantastique, et ce qu'il fait, on invente même un personnage un peu mystérieux, etc. Puis cette espèce de corps militaire qui à un moment donné va subir des mutations. Enfin bon, donc ça c'était pour me faire plaisir et ça m'a fait plaisir. Donc c'est comme ça que on a commencé notre collaboration par une espèce de réelle envie de par une générosité mutuelle. On s'écoute, on s'entend, chacun fait un pas vers l'autre. Voilà, et ça ça durera jusqu'à ce qu'on décide après partie de chasse d'arrêter la bande dessinée ensemble.
Alors cette générosité va prendre forme avec vos trois premières bandes dessinées, La Croisière des Oubliés, Le Vaisseau de Pierre et La Ville qui n'existait pas. Comment est-ce que vous répartissez les tâches à l'époque? Comment est-ce que vous travaillez ensemble, tant au niveau technique qu'au niveau scénaristique?
La technique, enfin, Pierre, je pense, travaille, s'adapte à chaque fois au dessinateur avec lequel il travaille. C'est avec Mézières, ça, c'est une vieille histoire, donc ça roule très très bien. Et avec moi, ça s'est arrivé. En fait, on a trouvé assez vite nos repères. Pierre comprend et je lui dis d'ailleurs que j'ai pas envie d'avoir trop d'indications de mise en scène, surtout le moins possible, d'ailleurs quasiment pas, ce que Pierre préfère aussi, parce qu'il n'est pas du tout pour le dirigisme de certains scénaristes qui disent premier plan tel personnage, enfin la mise en scène c'est quand même le dessinateur qui l'a fait, il faut qu'il se sente libre. Alors donc là-dessus il est d'accord, il écrit les dialogues. Il donne des indications sur les actions, ce qui se passe. Donc c'est relativement limpide, c'est un script, hein. C'est pas loin d'un script de cinéma. Et en fin de compte, les choses se mettent en place. Et moi, je me sens libre, donc je prends des libertés. Et la discussion se passe avec les planches que je lui montre, qui sont pas forcément terminées, mais en tout cas, on est là. Moi, je me rends compte aussi que Pierre, parfois, sur certaines libertés que je peux prendre, y compris avec l'histoire, il s'en sert pour rebondir aussi. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a le sentiment tous les deux que notre création, elle est vivante. Bon, tout au long du processus, elle est vivante. Elle n'est pas figée par une espèce de méthode trop rigoureuse. Il y a cette possibilité de respirer pour chacun de nous deux. Donc ça, c'est très important, et ça sera le summum, ce sera avec Partie de Chasse, où ça va devenir vraiment, où tous les deux, on sera obligés de lutter contre la réalité, c'est-à-dire que l'actualité qui nous talonne, c'est-à-dire les pays de l'Est qui sont sur le point de se libérer, la fin du communisme, et nous, on était en plein dans l'histoire. Donc c'est un vrai partage, je dirais, une vraie connivence qui se met en place assez rapidement.
Ce que j'ai trouvé remarquable dans ces trois ouvrages, c'est qu'ils représentent très bien, selon moi, certaines des aspirations politiques des années 70. Vous y faites état des conséquences sociales de la désindustrialisation, vous critiquez sévèrement le rôle de l'armée et l'influence du nucléaire, et vous parlez aussi du centralisme français de l'époque. Enfin, je trouve qu'on sent poindre les prémices de l'écologie politique à ce moment-là.
Alors c'est beaucoup de tout ça, tout ce que vous évoquez là, c'est beaucoup évidemment la part de Pierre Christin, puisqu'il c'est vraiment, alors il est de formation aussi des journalistes, hein. Il a été prof dans une école de journalisme à Bordeaux. Ce qui est assez amusant, d'ailleurs, tout au long de ma carrière, et lui aussi, évidemment, je tombais sur des journalistes qui me disaient « Ah, ben, je suis un ancien élève de Pierre Christin ». Ça m'est arrivé encore il n'y a pas longtemps. Donc, il avait cette sensibilité, et c'est celui qui a introduit ça dans la bande dessinée française, hein, francophone, et je veux dire, presque dans la bande dessinée tout court. Donc, il était là-dessus. Moi, j'étais sur les mêmes sensibilités politiques, moins militant que lui, sans doute. J'ai toujours refusé d'être dans le militantisme, j'ai toujours préféré avoir une position plus en retrait. Pour la petite histoire, la croisière des oubliés, le premier sort au moment où je suis moi au service militaire dans l'armée de l'air, en train de faire des maquettes. Alors, j'étais pistonné par Tardy, j'ai pris la place de Tardy où je faisais la maquette d'Air Actualité, qui était un magazine de l'armée de l'air, de très très sophistiqué, donc c'était plutôt intéressant. Et la croisière des oubliés sort au moment où je suis. C'était assez gênant. J'ai eu un petit regard un peu sévère du colonel qui s'occupait de moi. Mais en tout cas, c'était assez marrant. Là-dessus, j'épousais réellement une grande partie des idées de Pierre, mais j'étais pas toujours d'accord sur la manière de traiter. Donc ça faisait partie de nos affrontements. Ils étaient relativement peu nombreux, et moi j'avais toujours peur du manichéisme, d'être trop démonstratif, donc là-dessus j'essayais d'apporter une forme de nuance dans la mise en scène.
Est-ce qu'on peut dire que le citoyen Bilal est déjà affirmé à ce moment-là?
Bien sûr, je pense que ça se met en place, tout ça, le citoyen se met en place, certainement, y compris pour ce qu'il va devenir très vite, c'est-à-dire un citoyen qui assume totalement de ne pas voter. Totalement. Alors, il y a eu le seul moment où j'étais un peu gêné, évidemment, c'est lorsque Le Pen s'est retrouvé au second tour, c'est évident. Mais j'ai pas, c'était trop tard, je pouvais plus m'inscrire. Mais je disais simplement à mes camarades qui m'engueulaient, je leur disais, mais il fera pas 20%, Le Pen, il les fera pas. Mais il a pas fait 20%. Donc ma voix n'a pas manqué à Chirac. Mais non, c'est un choix. Alors est-ce que c'est peut-être un lien aussi à mon enfance belgradoise, hein, la perception de ce qu'est le pouvoir, un peu vu de l'intérieur, sans trop comprendre ce qui se passe. Peut-être que la force quelque part de Tito m'a impressionné, et que je ne trouve pas dans les projets politiques qui se sont succédés. Je ne trouve pas de la sincérité, la justesse. Je suis pas satisfait des propositions qu'on nous fait, et surtout des propositions qu'on fait et qu'on ne tient pas.
Merci Enki Bilal. À demain.
À demain. Au revoir.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Pierre Chassagneux avec Enki Bilal. À voix nue, réalisation Assia Ralid, prise de son Marcos Daras, Julien Girard, attaché de production Daphné Abgral, coordination Sandrine Trainer. À voix nue se réécoute et ce podcast sur franceculture.fr.